Ça a commencé ? L'émission a commencé ?
Debout !
Énorme ! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances ?
Le football, il a changé.
Good morning tour. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Tour. Il est 7h16, l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Je suis Mathis Maudet, c'est un plaisir de vous accompagner en ce vendredi 18 octobre. Au programme ce matin, de l'information, du sport et d'autres sujets qui seront traités par les élèves de première et deuxième année. Nous débuterons cette émission par le flash info de Lou Attard et Victoire Renard de Winter. Nous retrouverons ensuite la chronique États-Unis de Théo Leur à propos du duel Kamala Harris-Donald Trump, plus serré que jamais. Ensuite, David Alias nous tiendra au fait de l'actualité sportive de la semaine dans le Flash Sport. Camille Amara-Betati traitera des tensions de plus en plus présentes à la frontière entre les deux Corées dans sa chronique consacrée à l'Asie. Nous poursuivrons avec une chronique d'Angelina Richard sur la culture du viol, terme qui émerge avec le procès Mazan. Marie-Camille Chauvet abordera, elle, l'affaire des enfants placés du Nord dans sa chronique judiciaire. On parlera rock et plus précisément du retour en forme des groupes des années 2000 avec Jules Bourbotte. Enfin, Mourjane Raoult nous parlera de l'amour avec un grand A et plus spécifiquement des célibataires. Vous êtes bien dans Good Morning Tour, il est 7h17.
Davantage de taxes pour les ultra-riches. Dans le projet de budget pour 2025, les parlementaires se disent favorables à une plus grande justice fiscale. Selon le Premier ministre Michel Barnier, taxer les 65 000 foyers les plus riches à hauteur de 0,3% rapporterait 2 milliards d'euros en 2025. Renforcer les mesures contre l'exil fiscal, des contribuables n'est pas exclu non plus dans le contexte d'une dette qui se creuse de plus en plus. Au milieu des bombes, le choléra. L'OMS alerte sur un risque très élevé de la propagation de cette maladie au Liban. Un cas dans le nord du pays a été confirmé par le ministère de la Santé. Avec les déplacements de plus d'un million de Libanais de l'est vers le nord, le choléra peut faire beaucoup de dégâts parmi les populations fragiles. En août, une campagne de vaccination a été faite auprès de 350 000 personnes précaires. Cette dernière a été interrompue par les attaques israéliennes. Un protocole de lutte contre la vie chère en Martinique. Le préfet de Lille a annoncé avoir signé un texte pour garantir la baisse des prix de 6000 produits alimentaires importés les plus consommés. Rodrigue Petitot, en première ligne des négociations, est président du collectif RERPRAC. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes estime cette décision peu satisfaisante et insiste pour maintenir le blocage. Depuis la rentrée, la Martinique connaît une vague de mobilisation contre la vie chère. Le RERPRAC réclame l'alignement des prix entre ceux des grandes surfaces de Martinique et ceux de la métropole, supérieur de 15%. Le corps de Lina a été retrouvé dans la région de Nevers. Selon le producteur de la République de Strasbourg, le corps de la jeune fille de 15 ans était à 400 km de la zone de sa disparition. Après des mois de recherche, les autorités retrouvent son ADN dans une Ford Puma. Ils retracent alors les endroits où la voiture s'est arrêtée et finissent par arriver à Sermoise-sur-Loire, dans la Nièvre. Des résultats médicaux légaux sont très attendus par la famille et les proches de Lina. Une grève pour soutenir la souveraineté sanitaire de la France. C'est le deuxième jour de protestation dans plusieurs sites du groupe pharmaceutique Sanofi. Les grévistes et les syndicats refusent l'achat de 50% du capital d'Opella, une filiale de Sanofi qui commercialise le Doliprane à un fonds d'investissement américain. C'est le risque de voir s'échapper une production pharmaceutique importante sur le sol français. Près de 11 000 salariés sont concernés. Sécession il y a. Antoine Armand, ministre de l'économie, a exigé que le siège d'Opella reste en France et que l'activité des sites soit maintenue.
C'était le flash info de Lou Attard du vendredi 18 octobre. Maintenant, direction outre-Atlantique, à bord de Good Morning Tour, J-18 avant l'élection présidentielle américaine. Théo Leur nous parle du duel entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump dans la course à la Maison Blanche. Qu'en est-il, Théo ?
Bonjour Mathis, bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez dit, nous sommes à un peu plus de deux semaines du dénouement de cette élection, tant attendue entre l'actuelle vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump. Alors soyons clairs, l'écart entre les deux candidats n'a jamais été abyssal. Mais ces derniers jours, il s'est particulièrement affiné, plutôt en faveur du candidat des Républicains. De quoi pousser les démocrates à penser une nouvelle stratégie.
En quoi consiste-t-elle ?
On pourrait la résumer en quelques mots. Parler aux indécis. En effet, le temps presse avant l'élection et rien ne sert de vouloir convaincre les plus fervents électeurs de Donald Trump, ce qui n'empêche pas Kamala Harris de ratisser plus large. Cette semaine, elle était en interview sur Fox News, la chaîne la plus conservatrice du pays. Selon l'équipe de campagne de Kamala Harris, cet entretien sert à convaincre les républicains encore indécis. L'échange avec le présentateur Bret Baier s'est rapidement transformé en une sorte de débat au cours duquel le journaliste a repris les arguments de Donald Trump. Kamala Harris a donc répondu aux critiques principales des républicains. Elle a notamment reconnu les problèmes de l'immigration illégale à la frontière avec le Mexique. Elle a aussi affirmé clairement, je cite, « Ma présidence ne sera pas dans la continuité de celle de Joe Biden », fin de citation. De quoi répondre à Donald Trump qui avait refusé la semaine dernière un nouveau débat en écrivant ceci sur son réseau Truth Social. Kamala a clairement déclaré qu'elle ne ferait rien de différent de Joe Biden, il n'y a donc pas lieu de débattre. La vice-présidente a surtout insisté sur le danger que représente Donald Trump pour les États-Unis. Elle a notamment cité les propos récents de l'ancien président qui a qualifié les démocrates d'ennemis de l'intérieur, de quoi clairement diviser et fracturer encore plus le pays.
Justement, si Kamala Harris parle aux conservateurs, quelle est la stratégie de Donald Trump ?
Eh bien, l'ancien président veut parler davantage aux femmes. Il a notamment eu l'occasion de s'exprimer devant une assemblée uniquement composée de femmes en Géorgie, sur la chaîne Fox News, encore elle. Les équipes de campagne du Parti républicain sont inquiètes de voir de plus en plus de femmes blanches voter pour Harris et non pour leur candidat. De quoi organiser donc cette rencontre face à un public plutôt clément, mais avec lequel Donald Trump a pu parler des problématiques qui intéressent le plus l'électorat féminin. À propos de la fécondation in vitro, la FIV, le candidat républicain a notamment déclaré en fin d'émission, je cite, « Je suis le père de la FIV, nous sommes vraiment le parti de la FIV », fin de citation, du grand Donald Trump, mais une preuve quand même de sa volonté de séduire davantage une partie de l'électorat féminin. Pour les deux candidats à la Maison-Blanche, l'enjeu est de taille. Dans les derniers jours avant le scrutin, il faut séduire les indécis tout en s'assurant de sa base électorale. Si les femmes blanches annoncent vouloir moins voter pour les républicains, le parti gagne des voix dans les autres catégories de la population. Dans la dernière ligne droite, donc, Kamala Harris et Donald Trump multiplient les déplacements. Le candidat républicain peut même compter sur Elon Musk, qui a organisé hier soir sa première réunion publique en Pennsylvanie. Il a notamment déclaré, je cite, « Je ne saurais trop insister sur le fait que la Pennsylvanie va décider du sort de l'Amérique et, avec le sort de l'Amérique, du sort de la civilisation occidentale », fin de citation. Une façon d'insister sur l'écart qui se resserre avec l'échéance donc du 5 novembre prochain, et puis particulièrement sur les swing states comme la Pennsylvanie, qui semblerait être donc encore plus que jamais la clé de l'élection.
Merci Théo pour ton analyse de la situation. Je vous propose maintenant une petite pause musicale avec le titre A Horse With No Name du groupe America.
I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
C'était A Horse With No Name du groupe America, il est 7h28 et vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours sur Radio Campus Tours. Nous retrouvons maintenant David Alias qui nous présente les dernières actualités sportives.
Bonjour à toutes et à tous, on commence ce flash info sport avec du football et de la Ligue des Nations, où trois jours après leur victoire 4-1 à Budapest face à Israël sur des buts de Christopher Nkunku, Matteo Guendouzi, Eduardo Camavinga et Bradley Barcola, les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés lundi face à leurs meilleurs ennemis belges à Bruxelles, 2-1 avec un doublé de l'attaquant du PSG, Randal Kolo Muani. Avec ce succès, les Bleus se replacent à la deuxième position de leur groupe avec 9 points, 3 points devant la Belgique, 6 points et 2 points derrière l'Italie, 11 points, qu'ils affronteront le 17 novembre à San Siro à Milan. Raz de marée aujourd'hui également sur la planète sport, oui, rien que ça, avec le retour en bassin du quadruple champion olympique de natation, j'ai nommé Léon Marchand. Le Roi Léon replongera à partir d'aujourd'hui à Shanghai dans le cadre de la première étape de Coupe du Monde en petit bassin, avant de se rendre en Corée du Sud le 26 octobre et à Singapour la première semaine de novembre, toujours pour le compte de cette Coupe du Monde. Et il sera bien accompagné puisque le Chinois Pan Zhanle et l'Italien Thomas Ceccon, tous deux champions olympiques à Paris, seront également engagés dans cette compétition. Un retour dans les bassins en guise de préparation pour Léon Marchand en vue des championnats du monde en petit bassin mi-décembre avec un tout nouveau statut au-delà de ses titres internationaux, celui de nageur professionnel. Un autre médaillé olympique français a fait son retour à la compétition hier, il s'agit du pongiste Félix Lebrun. Le double médaillé de bronze à Paris n'a pas tremblé pour son entrée en lice au championnat d'Europe de tennis de table en Autriche à Linz et a disposé en 4 manches du turc Abdullah Yingenler, 11-6, 11-5, 11-5, 11-7. Le français, numéro 7 mondial, sera opposé au suédois Mathias Falk, 23e mondial, au prochain tour. Dans l'actualité sportive ce matin également, du basket avec la suite de l'Euroleague, où le Paris Basket est redescendu sur terre. Trois jours après leur victoire héroïque 84-80 face aux Grecs du Panathinaikos, champion en titre, les Parisiens se sont inclinés d'un souffle sur le parquet du Bayern Munich, 109-107 hier soir, pour le compte de la quatrième journée de la compétition. Et enfin, pour terminer, le traditionnel petit mot sur les équipes de foot de l'EPJTFC. Cette semaine, seule l'équipe masculine jouait et elle s'est inclinée en amical hier soir au complexe sportif de la Vallée du Cher contre l'Usillé sur le score de 7-6. Menée rapidement 3-0 en début de première mi-temps, les journalistes ont su réagir sous une pluie battante devant leurs supporters en feu pour revenir à 6 partout quelques minutes avant la fin du match, avant malheureusement d'encaisser un dernier but dans les ultimes instants de la partie.
Et oui, défaite pour le PJT FC, mais merci David pour ce résumé d'actualité sportive. On retiendra surtout la ferveur des supporters alors que la pluie tombait à torrents à la vallée du Cher. On se dirige maintenant en Asie. On retrouve Camille Amara Betati au micro pour évoquer la situation à la frontière entre les deux Corées.
Le Japon était frappé par un tremblement de terre et un raz-de-marée.
China's a one-party state.
Il n'y a pas de multipartisme avec Taïwan parce que ce n'est pas un État-nation.
I don't think anyone would call it a democracy.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous faisons le point sur une nouvelle escalade des tensions dans la péninsule coréenne, un sujet récurrent mais toujours aussi sensible.
Que s'est-il passé à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ?
La Corée du Nord a récemment détruit des tronçons de route qui reliaient historiquement le Nord et le Sud. Ces infrastructures, construites dans le cadre de la politique de rapprochement appelée « rayon de soleil » au début des années 2000, symbolisaient une lueur d'espoir pour la réunification. Ces routes reliaient des sites clés comme le complexe industriel de Kaesong, qui peut être visité par les touristes, ou le site du Mont Kunmang, tous deux situés au nord. La Corée du Nord a annoncé ce jeudi 17 octobre que sa constitution désigne désormais la Corée du Sud comme un État hostile, confirmant pour la première fois un changement promis en janvier par son dirigeant Kim Jong-un et justifiant ce dynamitage. Cette destruction marque une volonté claire du leader nord-coréen de couper les ponts, au sens propre comme au sens figuré. L'objectif du régime semble simple, séparer un peu plus ces deux États hostiles, comme il l'a affirmé en 2023. Des barbelés, des mines et des ouvrages anti-chars ont été installés. On observe là un durcissement évident de la position nord-coréenne.
Le contexte est-il toujours aussi tendu entre les deux pays ?
Toujours tendu, oui. Pyongyang a récemment accusé le Sud d'avoir envoyé des drones au-dessus de sa capitale avec des tracts critiquant son dirigeant. Mercredi, le Nord a annoncé avoir enrôlé près d'un million de jeunes dans son armée. Le Sud, quant à lui, dément fermement toute implication. Ces accusations ont d'ailleurs été accueillies avec scepticisme, par certains experts qui y voient une tentative de Kim Jong-un de renforcer son contrôle interne. Les tensions militaires ne sont pas en reste. Séoul a riposté en effectuant des tirs d'artillerie près de la zone démilitarisée, tout en restant en état d'alerte. Et alors que le dialogue intercoréen est au point mort, la Corée du Nord continue de développer ses capacités militaires tout en renforçant ses liens avec la Russie, une situation d'autant plus préoccupante dans un contexte global déjà marqué par des tensions internationales. Il est donc clair que la Corée du Nord n'entend pas s'arrêter à la destruction de ses routes. Les récents développements laissent présager un avenir incertain pour les relations intercoréennes, alors que Séoul cherche à renforcer son alliance avec les États-Unis face à ces provocations.
Merci beaucoup Camille pour cet éclairage de la situation. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Il est 7h33. On écoute tout de suite Circles de Post Malone.
Yeah.
venez d'écouter Post Malone avec le morceau Circles. Il est 7h37. Vous êtes toujours à l'écoute de Good Morning Tour. On écoute désormais le Flash Info présenté par Victoire Renard de Winter.
Ceci ne veut pas dire la fin de la guerre à Gaza, mais le début de la faim, annonce Benjamin Netanyahou. Hier, les autorités israéliennes ont annoncé la mort de Yahya Sinwar, chef du Hamas, considéré comme l'un des organisateurs de l'attaque du 7 octobre. Âgé de 61 ans, il dirigeait le mouvement islamique palestinien à Gaza depuis 2017. Il avait pris la tête politique du Hamas en juillet dernier, après la mort d'Ismaïl Haniyeh. Pour le moment, le Hamas n'a pas confirmé la mort de son dirigeant. Depuis mercredi, la commission des finances examine le budget 2025 présenté par Michel Barnier. La semaine dernière, les députés ont voté hier soir la suppression de la taxe sur l'électricité proposée par le gouvernement. Cet amendement a été adopté avec le soutien de la gauche et du Rassemblement national. L'ensemble du budget sera également voté par l'Assemblée nationale avant la fin de l'année 2024. Plus aucun département en vigilance rouge aujourd'hui. Météo France maintient 18 départements en vigilance orange en raison des crues et inondations. Plus de 1000 interventions des secours ont été effectuées et une cellule de crise a été activée au ministère de l'Intérieur. Le trafic ferroviaire est perturbé et les écoles sont fermées, notamment en Ardèche, où est attendue la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Elle appelle à la prudence face à des intempéries d'une intensité inédite. En Italie, une loi renforçant l'interdiction de la gestation pour autrui, soit GPA, a été adoptée mercredi. Soutenue par le parti de Giorgia Meloni, chef du gouvernement, elle interdit aux Italiens de recourir à la GPA à l'étranger, sous peine de poursuites judiciaires à leur retour. Ce texte s'inscrit dans la ligne nationaliste des valeurs familiales traditionnelles prônées par Giorgia Meloni, se qualifiant elle-même de mère chrétienne. La foire d'art contemporain Art Basel Paris ouvre ses portes aujourd'hui au Grand Palais et se tiendra jusqu'au 20 octobre dans la capitale. Sur 130 000 mètres carrés, 195 galeries exposent des œuvres d'art moderne et d'art contemporain. Cette foire très influente dans l'art artistique attire des collectionneurs venus du monde entier. Un programme public viendra également compléter la foire avec des œuvres installées dans l'espace public parisien.
Merci Victoire pour ce flash info. Il est 7h40, vous êtes toujours dans Good Morning Tour sur Radio Campus Tour. Attention, la chronique qui va suivre parle de violences sexuelles et de viol. On entend depuis quelques années parler de culture du viol, et ce encore plus depuis le procès Mazan. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme ? Angelina nous l'explique.
Culture du viol, ce terme est né en 1970 aux États-Unis et s'est répandu en Europe depuis les années 2000. Il est longtemps resté dans les milieux féministes, mais depuis quelques années, il émerge de plus en plus. Déjà, qu'est-ce qu'on entend derrière culture ? Le sociologue Éric Fassin expliquait le 19 septembre Le Monde qu'il s'agissait de penser la violence sexuelle en termes culturels et non individuels. Non pas comme une exception pathologique, mais comme une pratique inscrite dans la norme qui la rend possible en la tolérant, voire en l'encourageant. Fin de citation. Le 19 septembre également, Noémie Renard, militante féministe et créatrice du blog antisexisme.net, dans un entretien dans le 1, expliquait que le mot culture peut faire peur, car beaucoup l'associent à quelque chose de noble comme la littérature, l'art, la gastronomie. Alors qu'ici, culture désigne tout ce que partagent les membres d'une société avec ses traditions, ses croyances, ses valeurs, ses institutions par exemple. Car oui, un violeur, comme nous le rappelle le procès Mazan, c'est n'importe qui. Il faut casser le mythe du détraqué qui violente, puis viole une femme dans une ruelle de nuit. Le viol n'est pas un phénomène marginal. D'ailleurs, les violences sexuelles sont le plus souvent commises au sein d'un foyer, d'une part par les conjoints et de l'autre par l'utilisation de chantage, manipulation, pression. En 2015, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, dans 90% des cas, la victime connaissait son agresseur. Et selon une enquête des violences et rapports de genre Virage, plus de 70% des viols et tentatives de viol ont été commis par des proches. Éric Fassin parlait de culture de viol comme une pratique inscrite dans les normes. Et c'est vrai, depuis toujours, notre société tolère et banalise les agressions et le viol. Déjà, dans l'imaginaire collectif patriarcal, il y a cette idée que l'homme doit montrer sa puissance et la femme sa vulnérabilité. La femme devrait être dévouée à la maison et son mari mettre les pieds sous la table. Une femme qui fait beaucoup l'amour est jugée. Or, pour un homme, c'est naturel, c'est des pulsions, de besoins. Tous ces exemples contribuent à cette culture de viol. Et ça se retrouve dans les lois, dans le langage, les gestes, et aussi dans la littérature, les films et dans la pornographie, où les femmes sont parfois considérées comme des objets sexuels, soumises à l'homme hyper sexualisées. Il n'y a jamais la question de consentement, ce sont plutôt des scénarios basés sur des histoires d'inceste et de violence. D'ailleurs, tous ces cas de figure s'illustrent avec le procès Mazan et avec la défense des accusés. C'est sa femme, il fait ce qu'il veut, a ainsi affirmé l'un des accusés, justifiant son acte par l'accord de Dominique Pellicot. Il y a un vrai problème autour de ce qu'est le consentement. Si la personne dit non, hésite, dort, ne répond pas, ou que l'accord ne vient pas d'elle, mais de son mari à l'époque, bref, que la personne ne dit pas oui explicitement alors que c'est non, il n'y a pas débat. C'est du viol. Et même quand c'est oui, ça ne l'est pas toujours. Pourtant, l'un des avocats du procès a dit que son accusé n'avait pas l'intention de commettre un viol et que donc il n'avait pas viol. Or, selon la loi, je cite, le viol est retenu lorsqu'un acte de pénétration sexuelle est imposé par une personne à une autre personne. Ce crime est caractérisé lorsque l'auteur a utilisé des violences, de menaces, une contrainte physique ou psychologique ou par surprise. Mais là encore, il y a des limites dans cette définition. Que faisons-nous des viols commis sous manipulation, sous emprise, sous chantage? Que faisons-nous des corps et des esprits terrorisés qui sont en état de choc? Ce n'est que des exemples parmi tant d'autres. Si vous voulez approfondir ce sujet, je vous conseille l'article du Monde sur le procès du viol de Mazan. C'est le procès de la culture du viol, ou le podcast Les coups sur la table, sexe sans consentement, le rôle des hommes. Je laisse maintenant Mathis vous rappeler les numéros à contacter si vous êtes victime ou témoin de violences sexuelles et de viols.
Oui, c'est le 3919 qui est le numéro national anonyme et gratuit destiné aux femmes victimes de violences ainsi qu'à leur entourage, ou le 0800 05 95 95 qui est lui le numéro national également gratuit, anonyme, destiné aux femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles à leur entourage. Vous êtes toujours dans Good Morning Tour sur Radio Campus. On écoute maintenant Never Under de Justice et Tame Impala. venez d'écouter Never Under, un morceau de Justice et Tame Impala. C'est maintenant l'heure de la chronique judiciaire de Marie-Camille Chauvet. Elle nous détaille ce matin l'affaire dite des enfants placés du Nord.
Dernier jour d'une semaine éprouvante au tribunal correctionnel de Châteauroux, où est jugée jusqu'à ce vendredi l'affaire des enfants placés du Nord. Pour comprendre les faits qui sont examinés, il faut retourner 7 ans en arrière. Mathias, un enfant placé dans une famille d'accueil de l'Indre, se retrouve hospitalisé suite à des violences perpétrées par son père d'accueil. Une enquête est alors ouverte et des dizaines d'autres témoignages de jeunes placés affluent. Les enfants accusent plusieurs familles d'accueil de violences, d'abus sexuels, d'actes d'humiliation et de travaux forcés. Les familles mises en cause viennent de la Creuse, de la Vienne, mais surtout de l'Indre, et c'est pour cette raison que le procès a lieu tout près d'ici, à Châteauroux, le chef-lieu du département. À la barre comme au micro des différents médias qui se sont penchés sur l'affaire, les anciens enfants placés racontent l'horreur qu'ils ont vécue. Certains rapportent des remarques racistes à l'image de Jean Kéandi, quand d'autres, comme Michael, décrivent des scènes d'une violence physique inouïe, jusqu'aux étranglements et même le coma. Certains parlent de l'humiliation vécue dès les premiers jours au sein de la famille d'accueil, comme Mathias qui rapporte s'être fait uriner dessus par son père d'accueil. Âgée de 19 ans, Angelina est l'une des plus jeunes plaignantes. Elle raconte avoir occupé une caravane sans eau ni électricité chez une des familles d'accueil. Elle dit aussi avoir été abusée sexuellement comme d'autres jeunes filles placées par Bruno, l'un des principaux prévenus dans l'affaire. Cet homme purge déjà une peine de 20 ans de prison pour avoir violé sa propre fille. Aux côtés de Bruno, Julien, l'autre prévenu phare du procès, avait mis en place un vaste système frauduleux. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance du département du Nord, avait confié des enfants placés à une association nommée Enfance et Bien-être. Cette association se chargeait de placer les enfants dans des familles de la Creuse, de la Vienne et de l'Indre. Problème, aucune de ces familles n'avait en réalité d'agrément pour accueillir des enfants placés. Pour ces adultes qui accueillaient des jeunes dans de piètres conditions, ce système, mis en place de 2010 à 2017, était largement lucratif. Les familles se sont partagées plus de 630 000 euros. À la barre, au récit douloureux d'enfance brisée succède la voix de Julien, qui nie la violence dont on l'accuse et préfère parler de recadrage. Sur le banc des accusés, 19 personnes comparaissent et risquent jusqu'à 10 ans de prison. Aucun représentant de l'ASE n'est poursuivi dans cette affaire. Un ancien éducateur qui avait à sa charge certaines victimes a fait part de ses regrets à la barre de ne pas avoir su comprendre les signes d'alerte. Les avocats des parties civiles soulignent quant à eux les maux de l'aide sociale à l'enfance qui échoue dans sa mission de protéger des enfants dont les parcours de vie sont déjà difficiles. Cette affaire montre qu'une fois de plus, lorsqu'un système est à la dérive, ce sont les plus vulnérables qui se noient en premier.
Merci Marie-Camille de nous avoir narré les dessous de cette affaire. Je vais maintenant laisser le micro à Jules Bourbotte pour nous parler du retour en force des groupes de rock des années 2000. Si vous n'êtes pas encore éveillé, tendez l'oreille.
Oui, j'avoue que c'est pas tout nouveau, hein, mais ça me démange atrocement d'en parler. Ça revient comme un bouton d'herpès toutes les semaines quand il faut écrire la chronique. Et tout le monde dans le studio ne partage pas forcément mon engouement, mais 2024, c'est le renouveau du rock. Pas du rock de nos darons, hein, les Rolling Stones, Jimi Hendrix ou Johnny, pour représenter un peu la francophonie. Moi, je parle bien du rock baggy, du rock casquette à l'envers, du rock avec des piercings et des écarteurs, bref, du rock des années 2000. Turn the lights off, carry me home. Même si vous n'êtes pas spécialement fan, c'est tout simplement impossible d'être passé à côté si vous êtes né ou avez grandi fin 90, début 2000, tant ce sous-genre est le marqueur d'une époque tout entière. Encore aujourd'hui, si vous tendez l'oreille, c'est omniprésent, on s'en souvient dans Shrek avec All Star de Smash Mouth. Mais aussi avec toute la BO d'American Pie et celle de vos séries Disney Channel préférées, ce rock est ado, ce rock est cool et ce rock n'a pas de problème. Et oui, début 2000, pas de Covid, pas de crise de l'immobilier, pas encore de 911 et surtout pas de responsabilité d'adulte, le nouveau millénaire a des promesses à revendre, bref, c'est une époque qu'on idéalise, qu'on l'ait connue ou pas d'ailleurs. Boum, retour à la réalité, nous revoilà en 2024 et là, ça rigole moins. L'inflation, le RN, Macron, la guerre, le RN, Trump aussi, hein, vu qu'on parle du rock aux US. Je crois que les gens avaient besoin de souffler un peu et heureusement, on est aussi en 2024 et le groupe The Libertines est revenu en début d'année. The Offsprings a sorti un album la semaine dernière. Sum 41 continue sa tournée des festivals depuis l'après-Covid et en parlant de festivals, l'immense Sick New World de Las Vegas a dévoilé cette semaine une line-up de feu pour l'année prochaine, après avoir déjà tout pété en avril. Plus que jamais, le rock 2000 est à la mode. Vous avez regardé des collégiens à la sortie des cours. Pas d'esprit mal placé, hein. Je parle de baggy, de taille basse, de t-shirt trois tailles au-dessus. Assez ringard pour être stylé aujourd'hui. Comme on dit, la mode est cyclique et on est enfin revenu aux meilleures années. Revenons-en à la musique cette fois, parce que j'ai zappé le meilleur, mais Fred Durst, l'iconique chanteur de Limp Bizkit, continue de tourner et rencontre cette année au festival Lollapalooza un nouvel engouement. Les Red Hot aussi, les Red Hot, hein, qui sont un peu les tontons de cette génération, avec leur nouvellement réintégré et légendaire guitariste John Frusciante, sont actifs depuis 2 ans et nous ont envoyé 2 albums. Si vous saviez comme ça me fait plaisir de le dire. J'en ai gardé un peu sous le coude puisque System of a Down ne fermerait pas la porte à un nouvel album si quelques tensions au sein du groupe étaient apaisées. Et enfin, je rajouterai que The Fray, que vous connaissez tous pour How to Save a Life, notamment utilisé dans Grey's Anatomy, sont eux aussi sortis de leur sommeil avec un premier single annonçant un EP à venir, on l'espère pour la fin de l'année. Bon, là je vous bombarde d'infos, mais je me mords la joue depuis tout à l'heure pour garder LE meilleur pour la fin. Linkin Park. Oui, ils reviennent. Enfin, techniquement, ils sont déjà de retour, puisque non content d'avoir recruté la talentueuse chanteuse Emily Armstrong, qui, je le rappelle, a la lourde tâche de rendre hommage au regretté Chester Bennington, le groupe est en tournée internationale pour faire la promo d'un nouvel album à paraître le 15 novembre prochain. En attendant, on s'est vu offrir 2 singles géniaux, ce qui promet pour la suite. Vous avez dû le comprendre, je suis bouillant à l'idée de voir ce rock que j'aime tant revenir sur le devant de la scène. Parce qu'au-delà d'un genre musical, c'était une expression désinvolte et provocante, la parole d'une génération qui s'affranchissait de codes trop traditionnels à son goût, mais aussi l'expression d'une incertitude face à l'avenir en disant un peu merde à toutes ces angoisses. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous manque un peu de ça, justement. Je vous demande pas d'aimer les guitares qui crient et les gros drops de batterie, mais et si on disait un peu merde tous ensemble ? Parce qu'il nous appartient qu'à nous de façonner notre futur et le monde dans lequel on a envie d'évoluer. La musique et l'art ont bien entendu leur rôle à jouer, et face à la montée et la propagation des idées extrêmes, ils sont plus que jamais en danger. Continuons de crier, de taper du pied, de se rentrer dedans dans les pogos, et pour les plus extrêmes, même si vous préférez, de faire du playback dans le bus. Mais en tout cas, exprimez-vous, et moi je vous laisse sur The Emptiness Machine, premier single issu de l'album à paraître de Linkin Park. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. I keep on lying too.
venez d'écouter The Emptiness Machine de Linkin Park. Après un énorme pogo dans le studio, on retrouve maintenant Mourjane Raoult pour la dernière chronique de l'émission. Je crois que tu souhaites nous parler du célibat aujourd'hui, Mourjane.
Oui, tout à fait, Mathis. Merci de me laisser le micro. Ça me fait plaisir parce que j'ai besoin de dire quelque chose. Donc, pour les trois pimpins qui nous écoutent ce matin, tenez-vous bien et éloignez-vous de votre grille-pain.
I'm single. I'm just a little high maintenance, but I love you so much.
Bon, d'accord, ce n'est pas un scoop, ça dure depuis un moment. Je suis célibataire comme Selena Gomez et c'était elle à l'instant en juillet 2023. D'ailleurs, en ce moment, le célibat, c'est comme la veste verte de Marine Tondelier, c'est plutôt tendance, même si pour beaucoup, le célibat reste une situation peu enviable.
Hello, it's day 4 of being single. And I broke my one day streak of not crying.
Being single at 46 sucks.
Bref, si vous vous sentez mal, YouTube regorge de mash-up de témoignages référencés sous le titre « Women crying over being single ». Bref, des femmes qui pleurent parce qu'elles sont célibataires. De mon côté, je me suis rassurée en allant voir du côté des décodeurs du monde parce que je les trouve plutôt sympas. J'ai donc appris que deux tiers de mes congénères sont célibataires comme moi, si par congénère on entend « jeunes femmes de 18 à 24 ans ». À savoir que si j'étais un homme de 23 ans, j'aurais presque 80% de chances d'être célibataire et 3 chances sur 4 de ne jamais avoir été en couple. À moi bientôt l'appartement à Los Angeles avec un chien, puisque le saviez-vous, la ville compte aujourd'hui plus de chiens que d'enfants. C'est en tout cas ce que rapporte la journaliste France Ortelli dans une enquête sur le vertige amoureux parue en février 2021. Alors faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ? La réponse diffère probablement, que vous soyez la Déferlante ou le Figaro. Mais les temps sont durs pour l'amour avec un grand A. Selon un sondage d'Ipsos de 2022, le célibat est un mode de vie choisi et assumé pour près des deux tiers des célibataires français. De son côté, la journaliste Aline Laurent Ménard compare nos représentations du couple et de l'amour à une nouvelle religion. Selon elle, les comédies romantiques et les romans à l'eau de rose nous font rêver de relations amoureuses. Ce qui explique qu'un jeune célibataire français sur deux déclare bien vivre son célibat, mais aimerait rencontrer quelqu'un. De quoi faire le bonheur des sites de rencontres. Leur cible préférée, le citadin vingtenaire, prêt à investir son temps et son argent dans la recherche d'une relation, d'ailleurs probablement vouée à l'échec. Car seuls 11% d'entre eux forment des couples qui durent, d'après François Krauss, le monsieur Q de l'IFOP. Et oui, ses collègues à l'Institut français des études sur l'opinion le surnomment vraiment comme ça, puisqu'il s'est spécialisé dans les enquêtes sur la sexualité des Français. Mais revenons à France Ortelli, qui s'est penchée sur le vertige amoureux à l'heure des Tinder et des Bumble. France Ortelli qui soulève une question intéressante. Pourquoi est-il devenu si difficile de trouver un partenaire alors que notre choix est devenu illimité, ou quasi ? Écoutons l'analyse de France Ortelli, enfin de Mathis, puisqu'elle n'a pas pu venir aujourd'hui.
Nous devons faire face à tellement de possibilités que nous finissons souvent par abandonner. Et si nous parvenons à dépasser notre paralysie pour finalement prendre une décision, elle sera sans doute mauvaise. Le cerveau, incapable de trier efficacement des données trop nombreuses, finit souvent par se rabattre sur le mauvais choix pour se simplifier la vie.
Ce qui revient, écrit aussi France Ortelli, a avalé un mauvais ristretto au Starbucks alors que tu rêvais en fait d'un pumpkin spice frappuccino. Et elle poursuit.
Enfin, quand bien même nous réussirions à nous décider et que par miracle ce choix semblerait satisfaisant, nous nous sentirions tout de même moins comblés que si nous avions tranché en ayant moins de choix.
Et elle n'aurait pas tort, la simple perspective de télécharger Inge pour écouter Joël me tunnel sur son ex au Pale ne me donne strictement aucune envie. Alors au lieu de scroller sur Apple ou sur Inge, je préfère encore me perdre sur YouTube et écouter Selena Gomez décrypter les raisons de nos célibats.
Apparently you have to go outside and meet people. Like you actually have to go outside and talk to them. It's gonna be a no for me.
Merci Mourjane pour le partage, il est 8h03 sur Radio Campus Tours et c'est déjà l'heure de vous remercier d'avoir écouté cette 5e édition de Good Morning Tours. J'aimerais saluer chaleureusement toute l'équipe qui a rendu cette émission possible. Merci à toi Mourjane, Jules, Marie-Camille, Angelina, Camille, Théo, David, Lou et Victoire pour leur chronique mais aussi la technique. Et on remercie un remerciement spécial Du coup, je l'ai dit à Lou et Victoire qui ont fait la technique. Il est temps de se quitter maintenant. N'hésitez pas à aller consulter le Twitter de l'émission, le site Radio Campus Tour pour ne pas rater un replay. Rendez-vous la semaine prochaine, le même jour, à la même heure, 7h15, sur le 99.5 FM pour une nouvelle matinale des étudiants de l'École publique de journalisme de Tours. Très belle journée à toutes et à tous.